L'Europe ne se fera pas d'un coup.
Ce n'est pas contre une nation quelconque que nous nous rassemblons.
On peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, 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 mais ça n'aboutit à rien.
France Culture.
L'Europe marche à nouveau sur deux jambes.
Les termes du débat européen.
Le débat, il n'est pas entre moins d'Europe et plus d'Europe.
Le débat sur l'avenir de l'Europe a ainsi été relancé.
Ce sera une autre manière de découvrir l'Europe.
Emmanuel Laurentin.
Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat spécial du vendredi, les termes du débat européen, une émission pendant laquelle nous nous attachons à un terme qui nourrit le débat public aujourd'hui dans un pays d'Europe. À l'ordre du jour ce soir, Danemark et écologie. Il y a 11 jours, le 15 avril, le Danemark a annoncé la mise en place d'un fonds vert de 670 millions d'euros supplémentaires d'ici 2030 pour que le pays, je cite, « devienne vert et respectueux du climat ». Un propos qui peut apparaître surprenant tant ce pays, qui a le premier au monde implanté des éoliennes en mer et couvre la moitié de sa consommation électrique par l'éolien, semble, à tous nos yeux en tous les cas, pionnier dans le domaine des énergies renouvelables. Mais il est aussi champion dans la production de porcs, dont les effluents par exemple peuvent tuer le littoral, au point que Greenpeace a organisé récemment, sur la côte est de la péninsule, les funérailles d'un fjord. Le Danemark espère d'ailleurs voter bientôt une éco-taxe sur les billets d'avion et une taxe carbone pour le secteur agricole, mais se heurte sur ce point précis à l'opposition des entreprises agroalimentaires. Nous en discutons avec nos deux invités. Benoît Bizet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes attaché climat et énergie à l'ambassade du Danemark en France et à distance depuis le Parlement de Strasbourg. Karen Melchior, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes eurodéputée danoise et membre du groupe Renew.
C'est la première fois qu'une telle chose arrive. Dans ce projet réalisé par le Danemark et l'Allemagne, les coûts et bénéfices sont partagés. Et cela même si nous sommes sur le territoire danois. Nous sommes très heureux et très fiers de cette collaboration, car cela veut dire que nous avons réussi non seulement la transition verte au Danemark, mais qu'en plus nous impliquons d'autres États européens. L'Allemagne est le plus grand État de l'Union européenne. Cet accord est d'autant plus important qu'il peut encourager le secteur de l'énergie à se diriger vers une production d'énergie verte.
Vous venez d'entendre Dan Jorgensen qui s'exprimait en 2022, alors qu'il était ministre du Climat, de l'Énergie et de l'Approvisionnement, au sujet de l'accord que le Danemark venait de convenir avec l'Allemagne pour une coopération plus étroite dans leur développement de fermes éoliennes offshore en mer du Nord et Baltique. Est-ce qu'on peut dire, comme le disait Dan Jorgensen il y a deux ans, que le Danemark a réussi la transition verte, Karen Melchior?
Ça a réussi une électrification de notre secteur d'énergie qui nous permet de faire une transition pour une énergie plus renouvelable parce que c'est nécessaire d'avoir une pas dépendance des charbons ou des autres matériels fossiles pour réussir. Mais il faudra encore faire de nouveaux investissements pour faire la transition et aussi pour nous libérer de la dépendance de gaz.
Mmh. Et je crois, d'ailleurs, Benoît Bizet, vous êtes notre deuxième invité, vous êtes attaché climat et énergie à l'ambassade du Danemark en France. Je crois d'ailleurs que si le gouvernement lance un fonds vert pour que le Danemark devienne un pays vert et respectueux du climat, comme l'a dit en particulier le ministre des Finances récemment, c'est parce qu'il ne l'est pas encore, un pays vert et respectueux du climat, alors que nous, nous en avons cette image-là, puisqu'il a été pionnier dans de nombreux domaines dans ce sens-là.
Effectivement, je pense que le Danemark est un pays vert, mais pour devenir et finaliser cette transition, il faut se donner les moyens. Et je pense que le Danemark, avec cet accord et ce fonds vert, démontre la nécessité aussi d'investir sur la transition écologique, puisqu'elle coûte. Et je pense que ça peut être une manière justement d'inspirer, qu'il y a des financements qui sont injectés dans un pays qui se donne les moyens et qui veut aussi être une sorte d'exemple dans le modèle de transition verte.
Est-ce que, justement, cette question d'être un exemple est une question qui s'oppose, je ne dirais pas quotidiennement, mais régulièrement au Danemark, Karen Melchior, dans le sens où, effectivement, il y a cette image qui est partagée par beaucoup d'un pays qui a fait beaucoup d'efforts dans ce domaine, mais qu'on sait très bien que cette transition est longue, nécessitera énormément d'investissements, prendra beaucoup de temps, et puis aura aussi des inconvénients pour les habitants du pays qui la met en œuvre. Parce qu'effectivement, il faut faire des choix. Il y a des choix dramatiques parfois à faire entre les types de métiers que l'on soutient et ceux qui vont perdre à cette transition écologique, et que ça n'est pas si évident que cela.
Je trouve qu'en Danemark, on a eu depuis une longue période, jusqu'en 2010, même plus loin, un accord à travers le spectre politique, que l'investissement pour une transition pour des énergies renouvelables était bon pour le climat, était bon pour notre pays, et était bon pour nos entreprises aussi. On a des producteurs d'éoliens très importants en Danemark. Donc, il n'y avait pas vraiment un grand débat en Danemark si on devrait faire une transition pour des énergies renouvelables. Mais avec le débat dans le monde, qui est devenu encore plus polarisé, et les manifestations devant les écoles pour le vendredi pour l'avenir, à Greta Thunberg, ça a encore polariser les débats encore. Et il y a des partis politiques, maintenant même en Danemark, qui mettent en question cette transition verte, qui disent que c'est pas juste pour les agriculteurs à payer pour leurs émissions des gaz à charbon. Et aussi, il y a par exemple une grande usine de ciment qui on a fait une exception pour leur effet de serre. Et là, je crois qu'on a vraiment une question de qui doit payer pour les effets climat que nous avons en Danemark. Et je trouve que cette fonds vert est nécessaire pour montrer aux entreprises et aussi aux agriculteurs qu'on va leur demander à faire leur part dans cette transition, mais on ne va pas leur demander de le faire sans aide.
Oui, parce qu'effectivement, l'idée avec ce fonds vert, c'est de soutenir la reforestation, la lutte contre les PFAS, les polluants éternels, dont on a parlé il y a peu de temps dans le temps du débat, la dégradation de l'environnement aquatique. Et cela, effectivement, c'est peut-être une surprise. On imagine, sans y être allé, le Danemark comme un pays extrêmement vert, baigné par la mer, avec des fjords, avec effectivement une dimension écologiquement a priori parfaite. Et puis, on s'aperçoit que les activités humaines, en particulier les activités agricoles, Benoît Bizet, ont pesé sur l'environnement au point qu'on a récemment, je crois que c'est l'Agence nationale de l'environnement qui l'a décrété, que sur 109 zones côtières qui sont classées en bon état écologique, il n'y en a que 5 qui sont classées en bon état écologique, donc toutes les autres sont en mauvais état écologique. Qu'est-ce qu'on peut dire de cela? C'est-à-dire les activités humaines sur la Terre qui ont des influences considérables sur la mer.
Alors effectivement, comme vous venez de le dire, il y a beaucoup de problématiques suite aux activités humaines, et je pense que c'est le Danemark comme autre part. C'est surtout visible au Danemark, puisque c'est un pays comme la France qui est très agricole. Il y a une grosse surface du pays qui est utilisée pour pour des sujets agricoles.
Et ça, c'est 60% de la surface du pays qui est dédiée à l'agriculture.
Voilà, donc c'est quand même une grosse partie. Et on s'est rendu compte avec le temps que les différents secteurs qui produisent beaucoup de gaz à effet de serre devaient être pris chacun leur tour. Comme le disait Madame Melchior, on a d'abord choisi d'électrifier et de décarboner l'électricité.
Ça c'est fait, c'est presque
fait. Le voyage est quasiment fait. Puisqu'on s'attend à avoir 100% de la consommation électrique couverte par les renouvelables d'ici 2028, donc même plus rapide que prévu. Qu'on avait prévu en 2030. Mais les secteurs qui restent quand même les gros secteurs à trouver des solutions, c'est quand même l'agriculture et le transport, notamment le transport maritime. Et ce fonds vert participe aussi, comme le disait Madame Melchior, à aider les démarches et les agriculteurs, entre autres, à réaliser les efforts qu'ils vont devoir faire, puisqu'ils ne seront pas gratuits.
Oui, parce que effectivement, Benoît Bizet vient de parler en particulier du transport maritime. Il faut se rappeler que le deuxième transporteur maritime au monde est danois, c'est Maersk. Et pour ce qui est de l'agriculture, Karen Melchior, eh bien, un tiers des émissions de carbone danoises sont dues à l'agriculture. Le premier producteur européen de porc est danois, il s'appelle Danish Crown, et donc il y a là effectivement un sujet, mais quand on sait comment s'est passée la volonté du gouvernement des Pays-Bas de mettre néerlandais de mettre en place justement une taxation pour l'agriculture aux Pays-Bas et les conséquences que ça a pu avoir sur les élections futures, on serait aujourd'hui, je serais à la tête du gouvernement danois, je réfléchirais à deux fois avant de mettre en place cette taxe carbone qui n'est pas encore votée mais qui pourrait l'être tout de même bientôt, Karen Melchior.
Je fais confiance qu'on a mis en place une procédure un peu plus mieux réfléchie peut-être. En Danemark, on a une procédure très lente. On avait une commission des experts qui est venue avec un rapport. Et maintenant, on fait en sorte des trilogues avec des mouvements et des activistes d'organisations vertes et aussi des organisations agricoles et le gouvernement pour trouver une bonne solution pour le Danemark. Mais c'est en question très débattue parce que c'est devenu une partie de la discussion politique polarisée en Danemark. Et aussi, notre agriculture en Danemark, c'est différent que l'agriculture en France.
C'est-à-dire
C'est-à-dire que c'est beaucoup plus... c'est des grandes tailles, les fermes sont beaucoup plus larges, les productions de porc sont beaucoup plus larges qu'en France, où quand on avait le débat sur les émissions industrielles, le niveau de particules qui doit être dans la production de l'air. En France, c'est un problème parce qu'on baissait les niveaux à des fermes qui sont plus petites. Mais en Danemark, la plupart des fermes sont déjà couvertes par la législation européenne. Mmh. Donc, c'était pas un problème qu'on baissait les niveaux parce qu'on était déjà inclus. Donc, c'est beaucoup plus concentré, c'est plus large. Et donc, là, il y a moins des agriculteurs, mais qui sont plus puissantes et puis mieux arrêter des changements législatifs s'ils veulent. Et c'est pour ça aussi que c'était difficile d'avoir une meilleure protection pour nos milieux aquatiques en Danemark parce que les agriculteurs ne voulaient pas arrêter de mettre
l'azote
et tout, oui.
Sur leurs champs, et cet azote se retrouve, évidemment, on le sait, en France, avec la question des algues vertes, se retrouve dans la mer. Et donc, il y a, en l'occurrence, on a placé des caméras de surveillance sous-marine qui, parfois, en 70 heures de surveillance, n'ont détecté dans la mer qu'un seul poisson. Donc, ça veut dire, effectivement, que la vie marine a été... disons, assez largement détruite par ces émissions. Est-ce que cette question de la désoxygénation de l'eau fait partie des questions importantes pour le Danemark aujourd'hui, puisque c'est une des questions qui est posée par à la fois ce fonds vert tel qu'il est décrété, et puis les possibilités de faire évoluer tout cela avec la taxe carbone sur l'agriculture, Benoît Bizet?
Alors effectivement, c'est un point d'ailleurs du fonds vert, comme vous venez de le dire, hein, qui s'appelle « Restaurer la vie dans les fjords danois », puisqu'on a constaté, comme vous venez de le dire, que lentement, mais sûrement, les fjords perdaient de leur oxygène et donc de leur vie en général, pas que les poissons, hein, aussi les algues et autres biodiversités. Et la biodiversité est aussi un des sujets qui est couvert par le
fonds vert.
Par le fonds vert. Donc, je pense qu'on a identifié des problématiques qui sont causées par l'industrie et les activités humaines, et que le fait d'avoir une transition énergétique derrière peut nous aider justement à régler un peu ces problèmes, ou en tout cas à les réduire dans les périodes que le fonds vert est tente. La période est jusqu'à maintenant, comme vous l'avez dit, jusqu'à 2030. Mm-hmm. Je pense qu'on fera un état des lieux en 2030, voir si effectivement les investissements ont porté leurs fruits. Mais je suis persuadé que les choix ont été faits sur de bonnes bases. Et notamment sur la taxe carbone, comme vous venez de le dire. Hein, c'est le Conseil du climat qui a proposé un rapport. Et si on le suit ou pas, c'est des choix politiques.
Alors justement, ce sont des choix politiques, mais j'ai cru comprendre en vous entendant, Karine Melchior, qu'il y avait un autre agenda politique, d'une certaine manière que l'agenda politique que nous connaissons chez nous. Benoît Bizet pourra peut-être en témoigner aussi, c'est-à-dire une certaine, je ne dirais pas une lenteur, mais une prise de temps pour pouvoir prendre des décisions importantes et un manque de précipitation. On critique souvent les gouvernements successifs de la France d'avoir fait des lois très rapidement et d'être obligé de les faire parce que les effets n'ont pas été mesurés à temps. Est-ce que c'est différent, d'une certaine manière, au Danemark, selon vous, Karine Melchior?
Je trouve que c'est très différent. Quand j'ai fait des études en France, j'ai pris l'impression qu'en France, on fait des manifestations et des grèves en premier, et on se met à table pour discuter après. En Danemark, on fait des négociations et on se met à table pour discuter. Et si ça échoue, on fait des manifs et des grèves.
C'est un peu radical comme vision, mais on comprend bien ce que vous voulez dire, en l'occurrence.
Donc, je trouve que ça montre un peu la différence des pays, des manières de trouver des solutions. Le problème pour les climats et l'environnement, c'est qu'il y a eu un manque d'action depuis des années, des décennies, et maintenant on a des situations très critiques, et je trouve d'attendre jusqu'à 2030 pour voir si ça a un effet. Ça peut aussi poser des problèmes en soi-même, mais je trouve c'est bien d'essayer d'enlever le conflit politique de la discussion pour trouver des solutions qui conviennent à toute la société du Danemark.
Benoît Bizet, vous observez les deux sociétés, justement, cette question de rythme politique?
Alors effectivement, je pense que pour soutenir ce que disait Madame Melchior, je pense qu'il y a vraiment une grosse différence dans la manière de se mettre en accord au niveau du gouvernement.
Déjà, ce sont des gouvernements de coalition, déjà, ça change.
Voilà, ce sont des gouvernements de coalition, même s'il y a quand même des partis qui sont plutôt dominants. Je pense que la chose qui vraiment est différente entre les deux pays est le consensus politique sur les accords énergétiques ou les accords climatiques. La plupart des derniers accords ont été validés par pratiquement tous les partis représentés au gouvernement, ce qui propose une forme de solidité politique. Si on change tous les 5 ans, on a quand même une assurance que c'est plus probable que la politique va être continuée, vu qu'ils ont déjà contribué à la signature de l'accord. Et on a fait ça depuis des années au Danemark, et c'est de plus en plus majoritaire, alors qu'en France, on n'a pas cette continuité politique. On peut avoir là sur deux mandats.
Des à-coups, par exemple, voilà. qui font qu'on revient en arrière pour repartir peut-être un peu plus tard.
Voilà, et que peut-être que l'opposition attend son tour pour pouvoir justement mettre sa politique en opposition à ce qui a été décidé auparavant.
Ces funérailles d'un fjord qui ont eu lieu le 6 avril dernier à l'initiative de Greenpeace, est-ce que cela a eu un peu d'impact, ou est-ce que c'était d'abord un coup médiatique pour justement alerter les opinions publiques sur la difficulté justement de cette mer qui entoure le Danemark, Karine Melchior?
Je crois que ça montre la gravité de problème, et même si l'enterrement du fjord, de la vie de la fjord, et juste avant cet accord de fond verte, ça a poussé le gouvernement à prendre d'action de mettre en place cette fonds. Mm-hmm. Il y a depuis maintenant 2-3 ans eu un grand débat sur l'état de l'environnement maritime en Danemark, parce qu'on a des agricultures industrielles, mais on a aussi des pêcheurs industriels, mm-hmm, qui utilisent des méthodes qui ne sont pas du tout durable, même dans nos mers internes, mmh, du Danemark, qui enlève toutes les plantes, tous les petits rochers dans les mers, et ça tue la pêche durable et la pêche côtière du Danemark. Et les différents gouvernements jusqu'ici n'ont pas voulu prendre des mesures pour mieux protéger nos mers.
Et donc ça veut dire qu'il faut agir aussi dans ce domaine-là. 18h41 sur France Culture, vous écoutez le terme du débat européen de ce jour, donc l'émission spéciale du temps du débat du vendredi. Aujourd'hui, nous explorons le Danemark à partir de l'écologie. Le Danemark est-il le bon élève européen en termes de transition écologique ?
Nous avons fait le choix fondamental et je crois unique de penser, préparer et planifier les grands défis de l'Europe. On a beaucoup entendu critiquer, en particulier le Green Deal, qui a été pris. Pardon de cet anglicisme dans ce lieu. Mais l'Europe est le seul espace politique au monde qui a planifié ces transitions. Et en prenant des directives sur le numérique qui permettent de réguler à la fois le contenu et le marché, et en prenant un texte qui permet de poser les jalons de notre transition énergétique et en quelque sorte de construire la cohérence de notre politique en européen par rapport à nos engagements internationaux, nous avons construit un choix en transparence. Simplement, maintenant, il nous faut prévoir les flexibilités d'application dans chaque pays et surtout la politique d'investissement qui va avec. Mais nous avons posé une planification européenne de ces transitions.
Vous venez d'entendre évidemment Emmanuel Macron lors de son discours d'hier à la Sorbonne sur l'Europe, évoquant le Green Deal, l'occasion pour nous de comparer les deux pays en matière d'écologie. D'ailleurs, il y a eu des accords et vous y travaillez, je pense, vous-même, Benoît Bizet, en tant qu'attaché climat et énergie à l'ambassade du Danemark en France, des accords entre la France et l'Allemagne. Mais il y a par exemple des conceptions différentes de ce qu'est l'hydrogène vert. On a compris que les Français trouvaient que l'hydrogène vert était bien quand il était fabriqué à partir de l'énergie nucléaire. L'hydrogène vert au Danemark, qui serait plutôt fabriqué à partir des énergies renouvelables. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de cette différence de conception ? Est-ce qu'il y a une différence de conception sur cette question de l'écologie entre nos deux pays ?
Non, c'est une très bonne question que vous venez de poser. Je pense que la distinction, elle est d'abord politique. Et c'est une idéologie qui suit la politique danoise. Hein. On veut avoir une image de pays vert et de pays en transition verte. Et pour ce, on aimerait bien produire de l'hydrogène à base d'électricité
renouvelable.
Verte. Pas que renouvelable, ouais. Puisque la discussion va être sur le fait que comment est-ce qu'on va classifier l'énergie nucléaire dans ce mix. Et donc conceptuellement et techniquement, c'est la même chose, sauf qu'il y a deux idéologies politiques qui font qu'on peut avoir des difficultés à collaborer et en tout cas à formaliser, ce qui n'empêche pas la collaboration, puisque je pense qu'il y a déjà pas mal d'entreprises franco-danoises qui travaillent et au Danemark et en France sur le sujet de l'hydrogène.
Il y a déjà eu un accord sur la question du offshore et du stockage du carbone ?
Alors oui, sur l'offshore, effectivement, en 2021, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'était M. Daniel Hansen qui a signé l'accord avec son homologue Mme Pompili à l'époque, et assurant des échanges sur l'éolien en mer, notamment sur la création et l'accélération des appels d'offres jusqu'en 2026.
Alors justement, cet éolien en mer dont on a commencé par parler, puis ensuite on a parlé de la question de la taxe carbone sur l'agriculture, Karine Melchior, il est très important, y compris pour l'industrie danoise, puisque en fait les éoliennes, vous les fabriquez, vous faites partie des rares pays européens à avoir un savoir-faire particulier dans ce domaine, puisque vous avez été pionnier. La première éolienne en mer au monde a été posée en 1991 au Danemark. Et alors maintenant, on parle d'îles énergétiques. Qu'est-ce que sont ces îles énergétiques dont la première devrait pousser à 100 km du Jutland, une île de 20 à 40 hectares qui serait capable de fournir de l'électricité à plus de 30 000 personnes, d'après ce que j'ai cru lire?
La différence entre la France et le Danemark, c'est aussi que la France a une savoir-faire nucléaire et une industrie nucléaire pour construire des producteurs d'électricité nucléaire, mm-hmm. et aussi pour transformer l'uranium en des centres nucléaires.
Et que vous, votre savoir-faire, c'est l'éolien.
Exactement. Et quand on parle de l'énergie verte, il y avait un grand débat au Parlement européen sur la taxonomie, comment définir l'énergie verte. Parce que pour moi, l'énergie nucléaire, c'est pas une énergie renouvelable. Oui, ça émet par des gaz à effet de serre, mais c'est pas renouvelable à toute l'avenir. Donc, pour avoir une transition verte, il faudra avoir, pour moi, plus des énergies renouvelables et pas seulement l'énergie nucléaire. Mmh. Je suis pas contre l'énergie nucléaire, mais je trouve en premier, l'investissement, ça doit être dans l'énergie renouvelable des dames et des oui. pour le soleil et
oui,
les
barrages, l'hydroélectrique et effectivement le solaire et aussi l'éolien. Mais on voit bien, puisque vous êtes au Parlement européen, Karen Melchior, en tant que députée danoise, on voit bien qu'il est difficile de s'entendre dans un espace géopolitique comme l'espace européen, puisque chacun défend son industrie. On a bien compris que la France défendait l'industrie nucléaire et que peut-être l'industrie danoise était défendue par les Danois en matière d'éolien. Et puis que effectivement, il y avait à chaque fois à négocier, à discuter. Mais vous nous disiez tout à l'heure que la politique danoise était une politique qui était fondée sur la négociation et sur la discussion. Donc ça devrait pouvoir marcher au bout du compte.
Il devrait pouvoir marcher. Et on a aussi trouvé un compromis en incluant les nucléaires. Mais j'étais pas tout à fait d'accord avec cette compromis. Mmh. Mais pour l'île avec l'éolien, c'est en construction qui permet de produire encore plus d'énergie qu'on pouvait faire sur Terre. Aussi parce que si on veut avoir restauration de la nature et avoir l'agriculture et aussi avoir la nature pour profiter pour des loisirs, il faudra pas mettre des éoliens partout sur la terre et donc c'est beaucoup plus efficace de les mettre en mer. Aussi, il y a moins qui arrête les mouvements du vent et donc il y a une possibilité de produire
une meilleure rentabilité d'électricité.
Exactement.
Et ce projet d'île est très important parce que vous attendez, je crois, les élections belges parce que vous devez lier cette île par un câble de 1000 kilomètres à une île semblable qui sera développée en Belgique. Ça veut donc dire que ça va faire partie de nos paysages un jour ou l'autre, ces grandes îles à distance au milieu de la mer. Ça va faire partie de nos paysages, Karen Melchior.
Oui, c'est une des choses que je trouve, quand vous allez visiter Copenhague, si vous prenez pas le train, quand vous arrivez en avion, vous allez voir les éoliens dans la mer jusqu'à côté de Copenhague. Mmh. Et pour moi, c'est un des meilleurs vistas de Copenhague, de voir ces symboles, ces éoliens qui produisent l'énergie renouvelable pour Copenhague et pour le monde.
Oui. Pour vous, justement, Benoît Bizet, qu'est-ce qu'on peut dire de cela? C'est-à-dire, là aussi, des projets industriels de création d'énergie renouvelable à distance du territoire même et dans la mer, pour que ça ne soit pas une pollution visuelle trop grande pour les Danois.
Alors, c'est sûr qu'on parle d'acceptabilité d'abord, et pour ça, on veut essayer de déplacer, comme le disait Madame Melchior, les éoliennes le plus loin possible de des côtes. Pour autant, je suis pas sûr aujourd'hui que le projet d'île énergétique soit aussi bien en développement qu'il a été il y a quelques
aussi
temps.
Aussi avancé, vous voulez dire.
Parce qu'il y a des...
Il y a un tiers de financement par le gouvernement, d'après ce que j'ai compris, par l'État, et les deux tiers sont des financements privés pour cette île énergétique.
Alors le concept de base, c'était une majorité étatique, donc on va dire 50,1 et 49,9... Et c'est parce que le statut de l'île est classé comme infrastructure critique. Donc on ne peut pas, en tant qu'État, laisser la main prise sur le privé. Mais la problématique qui reste aujourd'hui, c'est quand même encore le financement, l'inflation et la crise qui nous a touché ces dernières années a une influence aussi sur le coût de ces îles et de cette construction. Et je pense que les Belges construiront leur île énergétique avant le Danemark.
Oui, donc là, vous n'aurez pas la place de leader que vous avez pu avoir à d'autres moments. Et puis, cette capacité, ce savoir-faire dont on parlait avec vous, Karen Melchior, et avec Benoît Bizet, du Danemark en matière d'énergie renouvelable en particulier, conduit maintenant à des projets qui sont gigantesques, puisqu'on parle d'éoliennes pouvant atteindre aujourd'hui 330 mètres de haut, que les fabricants commencent à parler en se demandant s'ils ne pourraient pas pouvoir monter à 450 mètres de haut, donc un 2,5 km d'éoliennes dans la mer. Et d'une certaine manière, on voit bien que le gigantisme peut rattraper la volonté vertueuse de défendre la nature. Qu'est-ce que vous en pensez, Karen Melchior?
Je trouve quand on prend le train en France ou en Allemagne, on passe les centres nucléaires et on voit les gigantesques tours de refroidissement.
C'est vrai, vous avez raison.
Je préfère les éoliens.
Oui. Mais cette dimension gigantesque, Benoît Bizet, qu'est-ce qu'on peut en dire en sachant effectivement que les industriels effectivement sont poussés pour plus de rentabilité, plus d'efficacité, un meilleur rendement pour chacune des éoliennes que l'on pose, et on se dit jusqu'où ça peut aller et comment ça peut s'arrêter.
Alors je pense que jusqu'où ça peut aller, il y a à mon avis, a priori, personne qui va vous le dire aujourd'hui.
Il n'y a que le ciel, c'est ça.
Parce que je pense que, effectivement, en 91, quand on a, au Danemark, installé les premières éoliennes, on n'a jamais envisagé qu'on pourrait avoir des éoliennes avec une capacité de plus de 10 mégawatts maintenant. Mmh. Et pour ce, je pense que la taille des éoliennes en soi n'est pas le problème. C'est un problème physique, on va régler les problèmes physiques. Le problème est plus du coût et du coût d'installation et autour de tout ce qu'il y a en transport et il faut installer avec, il faut refaire des bateaux, il faut pas juste refaire les éoliennes, il y a tout un écosystème autour. Pour autant, s'il y avait le choix de mettre une éolienne de 1000 mégawatts à la place d'en mettre on va dire une centaine, pourquoi pas? Ça fera moins d'impact sur le milieu, on va dire, mais il faudra la mettre loin pour pas l'avoir.
Est-ce que vous apercevez, Karen Melchior, en tant qu'eurodéputée et aussi très bonne observatrice de ces questions d'énergie dans votre propre pays, mais aussi dans les problèmes que cela pose à l'ensemble de l'Europe, est-ce que vous apercevez combien être, disons, bon élève, je ne sais pas si c'est ce qu'on peut dire justement en termes de transition écologique, mais enfin en tout cas avoir mis en place des politiques depuis plus longtemps que les autres, vous permet aussi de tester les limites que l'on peut mettre à cette transition énergétique, c'est-à-dire la capacité de faire, Benoît Bizet nous disait le coût, etc. Toutes choses qui, d'une certaine manière, quand on est très en retard sur le Danemark, eh bien, on ne s'en aperçoit pas forcément, au bout du compte, de ne pas comprendre les ambiguïtés qu'il peut y avoir à faire une politique énergétique et puis à se rendre compte un peu plus tard qu'elle est impossible à mener ou impossible à financer.
Il y a eu beaucoup d'inflation et hausse des prix des matériaux de construction, donc de construire des infrastructures de grande taille. C'est devenu beaucoup plus cher dans les dernières cinq ans que prévu. Mais je crois pour la transition énergétique, c'est très important de faire comprendre à la société large et les citoyens que c'est un bénéfice pour eux-mêmes. Je crois que le succès des éoliens en Danemark, c'est aussi parce que ça avait commencé comme des coopératives. Mmh. Donc, quand on voyait des éoliens dans les paysages du Danemark, les gens qui vivaient autour pensaient que ça leur donnait de l'argent, ça leur donnait des bénéfices. Donc, si on a un débat que la transition énergétique, ça en coûte pour tout le monde dans la société et qu'on ne montre pas les bénéfices pour chacun pour cette transition, ça va arrêter le développement et ça va nous coûter beaucoup plus cher et ça va nous coûter aussi notre nature et nos paysages avec le chauffement climatique. Donc c'est très important de vraiment montrer pourquoi c'est bon pour tout le monde et aussi de donner du soutien pour les gens qui doivent faire des investissements pour la transition.
Mmh. Est-ce qu'on peut se dire, et j'imagine qu'il y a des critiques qui doivent s'élever de l'extérieur du Danemark là-dessus, en disant bah, c'est facile d'être le meilleur élève puisque les émissions du Danemark ne sont que de 0,1% des émissions du niveau mondial, et donc à partir de ce moment-là, ça n'est pas si important que cela. Et donc, d'une certaine manière, de se dire bah, plus on est petit, plus on a des capacités facilement renouvelables, justement, d'atteindre les objectifs, alors qu'on est un grand pays, et la France, etc., etc., et que c'est beaucoup plus difficile pour nous. De toute façon, on s'y est mis beaucoup plus tard.
L'objectif, effectivement, il n'est pas... il ne doit pas être remis en parallèle à la taille du pays et la taille des émissions, mais justement à la capacité à pouvoir éliminer ces émissions en domestique. Je pense que c'est important de reposer ça dans un contexte de pays. Effectivement, c'est si on enlève le Danemark de la carte globale, on n'aura pas forcément une influence sur le climat mondial. Par contre, l'influence que le Danemark peut avoir, c'est justement par ses ambitions et ses objectifs parfois très hauts. Et mettre des objectifs très hauts permettent aussi de se tirer vers le haut et peut-être être une source d'inspiration. J'avais juste un petit point que je voulais rajouter sur le fait de choisir un mix énergétique ou un autre. C'est un choix qui est tout d'abord politique, mais il y a quand même un objectif global qui s'appelle le climat. Et c'est important de se rappeler qu'on est dans une phase où tout ce qui est à bas carbone est le bienvenu, au contraire de tout ce qui est à haut carbone. Donc on peut commencer par là et ensuite on pourra, je pense... tirer d'autres conséquences.
Appartenir à un pays inspirant, comme vient de le dire Benoît Bizet, Karen Melchior, ça vous paraît quelque chose qui est enviable ?
Oui, et nécessaire, parce qu'il faudra trouver des solutions. Et c'est aussi un bon business, parce que si on trouve des solutions qui marchent en Danemark pour nos industries,
vous
pour
les vendrez.
Agriculture. Exactement. Et même si on est un petit pays, vous avez dit qu'on est le premier producteur du porc de l'Europe et on est aussi la deuxième transporteur maritime du monde.
Oui.
Donc si on trouvera des solutions pour une meilleure production de porc climatique et un meilleur transport maritime, ça va changer le climat pour le bon, au niveau global.
Oui, merci beaucoup pour cette conclusion qui est tout à fait parfaite, effectivement, puisque Maersk est donc le deuxième transporteur mondial et puis le premier producteur de porc en Europe et Danish Crown. Merci beaucoup, Madame Karen Melchior, depuis le Parlement de Strasbourg, où vous êtes eurodéputée danoise et membre du groupe Renew. Et merci à vous, Benoît Bizet, attaché climat et énergie à l'ambassade du Danemark en France. C'était le temps du débat préparé ce soir par Fanny Richet, Roxane Poulin, Mathias Mégy, Anouk Sévenot, Stéphanie Vineuve, réalisé par Cassandre Puel, avec à la technique Sébastien Royer et au Parlement de Strasbourg, Umberto de Abreu.